Vous écoutez RTL.
Il est 11h04 et vous êtes sur RTL. C'est le début de la bonne heure, bien sûr, avec Stéphane Bern.
Bonjour. Absolument. Stéphane. Bonjour Marie. On va retrouver Marie Guerrier à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais nous nous plongeons dans à la bonne heure. Aujourd'hui, on va parler de mode. Ah, ça fait du bien un peu de parler chiffon de temps en temps. Non, mais c'est vrai.
De beaux chiffons, là. De beaux chiffons, matière. Oui.
Avec Diane von Fürstenberg, notre invitée, qui est avec nous. Je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, je vous présente mes petits camarades. Vous avez rencontré pas mal de héros dans votre vie, peut-être quelques salauds. Mais quels sont les héros et les salauds de la semaine? Stéphane Blakowski dira tout à l'heure.
Bonjour à tous. Oui, je vois que Diane me regarde comme si j'étais le salaud de la semaine.
Non, pas du tout. C'est pas forcément lui.
Non, cette semaine. Vous êtes un flatteur. Non, je veux savoir cette semaine s'il existait une potion magique pour nous faire devenir des héros. On dit boire un petit verre d'alcool vous donne du courage. On va voir que, bon, c'est pas toujours le cas.
Pas toujours le cas. Il aurait aimé lui aussi faire la mode. Mais faute d'être mannequin, il nous montrera la marque de son maillot juste après le journal de midi. Voici Régis Maillot.
Bonjour. Ah oui, j'aurais bien voulu défiler.
Vous êtes allé à la messe, vous êtes bien coiffé.
Vous défilez souvent.
Je défile, ouais, je fais la Fashion Week, mais ce qui me déprime, c'est qu'ils font la tête, les mannequins, sur les podiums.
Mais parce qu'on doit mettre en valeur le vêtement et ne pas qu'on les regarde.
Ça part de hipster.
Non, c'est pas ça.
Enfin, pour moi, non. Moi, c'est la femme qui doit sortir.
Ah ben voilà. Moi, je pensais qu'elle tirait la tronche parce qu'elle ne mangeait pas assez.
Non, moi, c'est terrible. Moi, je ne comprends pas pourquoi on leur demande. Moi, je les fais sourire.
Voilà, sinon on leur demande, oui. Non, elles ont faim, c'est vrai. Alors, on restera dans la molle ou presque avec le zapping télé d'Éric Dussard.
Bonjour
Éric, vous avez trouvé une sorte de Anna Wintour. C'est une Anna Wintour de la politique.
Oui, elle s'appelle Bernadette Chirac. Ah oui. Je l'adore, c'est une vraie terreur. France 2 lui a consacré un documentaire que je vous conseille d'ailleurs vivement de regarder en replay. J'ai choisi une séquence dans le monde de la télé. Bernadette Chirac qui déboule dans une émission. Elle se rend compte qu'au niveau logistique, ça ne va pas du tout. Elle va tous les remettre à leur place, leur remonter les bretelles, justement.
Très bien. Et nous terminerons l'émission comme chaque jour avec le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Bonjour. Consacré aujourd'hui aux chansons qui célèbrent les femmes. Deux équipes, Diane et moi d'un côté, le reste du monde de l'autre côté. Et l'auditeur qui aura choisi le bon cheval, si je puis dire, eh bien, pourra partir à Chantilly, au château de Montvillargennes. C'est un week-end dans un relais château 4 étoiles qu'on vous offre
chez Eric Vert.
Avec RTL. Et à 11h40, un invité surprise spécial élections américaines. Il a déjà voté. Il connaît peut-être le nom du prochain ou de la prochaine présidente des États-Unis. Je ne vous en dis pas plus, on l'appellera...
Bill Clinton, ça c'est un beau coup, Stéphane, bravo.
Oui, c'est un très joli coup,
j'ai assez content.
Je vous présente notre invitée. Elle figure parmi les femmes les plus puissantes de la planète, d'après le magazine américain Forbes. Et c'est vrai qu'en matière de mode, elle est l'une des papesses. Même la véritable reine de New York, qui a fait des trois lettres de son nom, DVF... Mieux qu'un cri de guerre, une marque connue et reconnue dans le monde entier. Il y a 40 ans, elle invente la robe portefeuille imprimée qui s'est depuis lors vendue à plus de 5 millions d'exemplaires et a même fait son entrée au musée de la mode. 15 millions. Ah oui, j'étais...
Ça augmente sans cesse.
Vous avez gardé 10 pour vous.
Et là, elle en a encore vendu 1 million depuis que vous l'avez dit.
J'ai oublié les hommes. 15 millions d'exemplaires et a même fait son entrée au musée de la mode tout en faisant sa bonne fortune. Une belle revanche sur la vie pour cette jeune femme battante et optimiste à qui sa mère, au sortir des horreurs de la guerre, lui avait enseigné pour tout viatique cette leçon de vie. La peur n'est pas une solution. Certes, amoureuse d'un prince charmant, elle est devenue princesse et mère à son tour. Mais si elle a gardé le nom, elle a surtout voulu devenir une femme libre, indépendante, seule maîtresse de son destin. Dans son autobiographie publiée chez Flammarion, « La femme que j'ai voulu être », cette créatrice de mode atypique, femme d'affaires intrépide et pionnière sans limite, devenue l'une des grandes philanthropes de la planète mode, raconte comment elle a réussi à donner corps à ses rêves les plus fous. Avec nous ce matin, Diane von Fürstenberg. Alors, pour commencer d'abord, merci d'être avec nous.
Mais je suis ravie d'être là.
Parce que vous arrivez de New York, etc. Vous voyez les sunlight partout, puis vous débarquez dans une petite émission d'RTL.
Ah non, mais vous dire, moi, je suis née en Belgique. J'ai quand même une éducation francophone. Et donc, pour moi, RTL, ça fait très important.
Ouais. C'est mieux que CNN.
Oui. Mais c'est toujours trois lettres. DVF à RTL. Voilà. Je vous ai préparé une petite interview mode.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes avec notre invitée Diane von Fürstenberg, la femme que j'ai voulu être chez Flammarion. Alors, je vous ai promis une interview mode. Est-ce que vous pensez, Diane, comme Marilyn, qu'une fille qui a des bonnes chaussures peut conquérir le monde?
Une fille qui a... Oui, mais moi je dis toujours que j'aime mes jambes, mais je compte sur mes pieds.
Mmh. Ah oui. Est-ce que vous croyez, comme Coco Chanel, que pour être irremplaçable, il faut être différente?
Pour être irremplaçable, il faut être... Ben évidemment.
Oui, il faut être toujours faut être vraiment différent. Oui. La mode n'est rien, disait Yves Saint Laurent, c'est le style qui est tout.
Oui. Absolument. Ce qui compte, c'est la femme.
C'est la femme, oui.
C'est la femme, ça c'est sûr.
Pour les hommes, c'est foutu. Alors, vous êtes convaincu qu'en période difficile, la mode doit être extravagante?
Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, la mode, c'est un complément. C'est ce qui vous aide à être la femme que vous voulez être. Voilà.
Oui, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut être.
Ah ben oui, mais il faut y penser.
Il faut y penser depuis longtemps, oui. Marie-Cante, à qui on doit la mini-jupe, oui. Disait que c'est la femme qui doit porter le vêtement et non le vêtement qui doit porter
la
femme.
Ça, vous êtes d'accord avec ça? Exactement, on est d'accord.
Mais ça vous arrive de voir vos vêtements portés par des femmes qui n'ont pas du tout le style et qui ne les méritent pas?
Non, parce que ça les transforme.
C'est une robe qui rend sexy. Donc,
voilà.
Ah oui, c'est la robe qui rend sexy.
C'est une robe, quelqu'un m'a dit un jour, qui plaît au mec et sa mère est ok.
C'est une robe qui séduit les hommes.
Oui, c'est une robe qui séduit les hommes.
Les femmes belles.
Parce que ça met les formes en avant.
Non, mais j'ai des histoires insensées. Par exemple, vous savez, l'actrice Anne Hathaway.
Oui, oui.
Alors, elle m'a présenté sa mère un jour et alors sa mère lui dit « Ah bah écoutez, je vais vous dire quelque chose que même elle ne sait pas. » Et elle me dit, j'ai séduit son père dans une robe. Et puis elle attend quelques minutes et lui, d'ailleurs, elle a été conçue dedans.
Ah oui.
Alors Anne Hathaway.
Elle n'a même pas enlevé sa robe.
Ce qui était formidable, c'est qu'elle a dit, mais est-ce que c'est celle avec les tulipes? Elle a primé tulipes, parce qu'elle l'a gardée.
Elle a gardé la robe, incroyable. Est-ce que vous diriez que la simplicité, c'est au fond l'ultime sophistication?
Ah ben oui.
Oui.
La simplicité, c'est l'harmonie.
Baudérec disait que celui qui a de l'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur ne savait pas où aller faire du shopping.
Bon, ben elle a mal fini.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pensez, comme Karl Lagerfeld, que porter un jogging, c'est déjà avoir démissionné?
J'aime bien l'accent, continuez.
J'adore Karl, il vient nous rendre assez souvent visite, mais j'adore l'imiter. C'est vrai, il dit que les femmes qui portent un jogging...
Même les hommes
ont démissionné.
Oui, c'est vrai, c'était vrai de... Mais maintenant, c'est un peu différent.
Il y a les trainings maintenant.
C'est moins vrai aujourd'hui, parce qu'il y a toute une attitude quand même qui est loose. Donc, et puis d'ailleurs, il dirait plus ça maintenant, puisqu'il montre ses vêtements avec des sneakers.
Oui, il a changé.
C'est Choupette l'a changé.
Est-ce que vous pensez comme vous, ceci, femme que j'ai voulu être, la femme que j'ai été dans une certaine mesure, pour cette partie de moi qui a toujours été là?
Ben oui, je veux dire, quand on commence, on réfléchit à la femme qu'on voudrait être, et puis on devient la femme qu'on voudrait être, et puis après, on n'est plus tout à fait la femme qu'on voulait être, mais d'une certaine manière, on est mieux, et puis de beaucoup de manières, on est moins bien.
C'est plus simple d'être un homme, hein.
Pas forcément.
Là, on peut parler longtemps.
On en connaît,
On en connaît qui porte très bien la robe portefeuille.
Qu'est-ce que vous en pensez, le pull d'Éric et ses deux petites fermetures avec les épaules?
J'aime beaucoup.
Ils font les mêmes pour garçons. Vous êtes la seule.
J'aime beaucoup. On a envie de les tirer.
C'est pas souvent que j'entends ça.
Eh bien, on va retrouver Diane von Furstenberg dans un instant. C'est un livre passionnant. On va parler de son livre et de sa vie, la femme que j'ai voulu être, chez Flammarion. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours sur RTL en direct, en public, avec Diane von Furstenberg qui publie son livre La femme que j'ai voulu être, chez Flammarion. Moi, ce qui m'a touché au fond dans votre livre, c'est qu'au fond, vous partiez mal dans la vie.
C'était mal.
Oui, c'est-à-dire que vous pensiez que vous ne feriez jamais rien d'extraordinaire. Vous êtes comme
Voilà, votre maman avait connu les douleurs de la guerre, etc. Et finalement, vous êtes faite vous-même.
Oui, mais enfin, déjà, ma mère a toujours dit que Dieu l'avait gardée en vie pour me donner la vie. Mmh. Et en me donnant la vie, je lui avais rendu la sienne. Et que j'étais son flambeau de liberté. Alors, c'est énorme.
Oui, c'est énorme, ça met la pression. Là.
Mais surtout, le beau cadeau qu'elle m'a fait, ma mère, c'est qu'elle ne m'a jamais permis d'avoir peur. La peur, c'était pas une solution. Si j'avais peur du noir, elle m'enfermait dans une armoire. Et au bout de 3 minutes, c'était pas politiquement correct, mais ça marche. Et alors, je suis née en Belgique. Alors, en Belgique, il fait très gris, et puis c'est un peu monotone. J'aimais bien mon école, mais enfin, je m'ennuyais beaucoup. Et en effet, j'imaginais qu'il n'allait jamais rien m'arriver. Et donc, j'ai tout fait pour qu'il m'arrive plein de choses.
mais c'est fou, en fait. Ça montre que la détermination, la force de caractère, la volonté peuvent changer un destin.
Ah ben, écoutez, si vous pensez... je veux dire, la grande chance, c'est que très, très, très tôt, j'ai compris que la relation la plus importante, c'est celle qu'on a avec soi-même. Et donc, en tant que petite fille belge, comme ça, qui n'a pas l'air d'une Belge, il fallait que je sois complice avec moi-même. Et voilà. D'abord, j'écrivais des histoires, et puis après, je les ai vécues.
C'est fou, vous avez rêvé votre vie avant de la vivre. Alors, vous avez eu la chance de rencontrer un prince charmant,
ouais.
Egon von Fürstenberg, qui appartenait à la jet set. Quand même,
ah
c'était
ouais.
Un personnage.
Je l'ai connu à l'université à Genève. On avait tous les deux 18 ans. Et il était prince, et puis il était aussi italien, Agnelli, etc.
Ouais,
il était,
Agnelli, oui, c'est ça.
Il était beau et tout. Mais bon, j'ai pas pensé. On s'aimait beaucoup. C'était mon boyfriend, et puis voilà. Et puis il est parti en Amérique, on s'était quitté. Et puis il est revenu, et puis voilà. Et puis je suis tombée enceinte, et puis.
Voilà, vous l'avez épousé. Vous avez fait 2 enfants, et vous racontez qu'après il y a eu une interview qui est sortie dans un magazine.
Oui, c'est ça qui a fait la rupture.
Vous êtes rendu compte que. Ce qu'on racontait de vous, ce que vous vous racontiez de votre vie de femme mariée, etc., ne correspondait pas du tout à ce
alors
que vous vouliez
c'était,
être.
Voilà, c'était en 73, on était à New York, on avait 2 enfants, on était super glam, etc., etc. Et il y a eu un article qui est sorti dans New York Magazine, et on était sur la couverture, une sublime photo, et alors il disait « Le couple qui a tout, est-ce que tout est assez ?» Et alors, après, il y avait des très jolies photos à l'intérieur, etc. Et puis, j'ai lu cet article, je me suis dit, c'est pas moi. Et donc, j'ai compris qu'il fallait sortir du couple. Mais je suis sortie du couple et on est restés très, très, très copains. Et ce qui est très amusant, c'est que 3 ans après, la même fille qui avait fait ce papier m'a mis sur la couverture de Newsweek. Et là, j'étais toute seule. Enfin, toute seule, j'étais plus couple. Et j'avais fait un énorme succès, etc., etc.
Alors, le succès, c'est donc la wrap dress. C'est cette robe portefeuille créée en 1974.
Qui a rempli mon portefeuille.
Ouais, mais d'où son nom. Non, mais par exemple, je me souviens, quand tout le monde a entendu parler de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, elle arrive pour le premier voyage aux États-Unis. Boum! Elle porte votre robe. Là, c'était il y a quelques années, il y a 2-3 ans.
Ah oui, non,
ans.
Mais il y en a plein. Michelle Obama, pour sa première carte de Noël. Vous imaginez la carte de Noël. Les Américains, ils réfléchissent. Oui. Qu'est-ce que le chien va se mettre, etc. Et elle a mis une wrap dress. Oui. Qu'elle a toujours, d'ailleurs, qu'elle met toujours.
Oui. Et donc ça veut dire que c'est une robe qu'on peut remettre. Ouais. Déjà, c'est une bonne nouvelle.
Non, 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 mais absolument. Mais oui. C'est incroyable parce que même les vieilles robes d'il y a... Enfin, les robes qui ont été faites il y a 40 ans se vendent au même prix qu'avant. Oui. Oh non, au même prix que maintenant.
Mais comment vous avez eu l'idée de cette... Alors, cette robe portefeuille, je ne peux pas vous faire un dessin. Vous, les dames qui nous écoutent, croisez bien.
Ça s'appelle aussi... Ça peut aussi s'appeler cache-cœur.
Oui, c'est alors, ça. Comme c'est ça, français, c'est, en fait.
Voilà. Alors, en fait, ça a commencé... C'était un petit top. Croisé, qui est vraiment ce que se mettent les ballerines
oui.
sur leur tutu quand elles pratiquent. Hein, quand elles, oui. Voilà. Et alors, Donc j'avais fait ça, et puis j'avais fait avec une jupe. Et puis après, je l'ai mis ensemble. Et c'était en jersey. Et le jersey, c'était imprimé un peu, dans un imprimé qui bouge, comme par exemple, le même imprimé que les félins. Par exemple, les zèbres, ou les léopards, ou les poissons. Tous les animaux qui sont imprimés, c'est un imprimé qui bouge. Non, c'est pas toujours la même. Et donc, ça, alors, entre le fait que ça vous moule, que ce soit un jersey, que l'imprimé bouge, tout ça, ça rend la femme très féminine,
très féminine,
mais en même temps
libre.
En même temps,
libre de ses
moments. Mais en même temps, ça lui donne de l'assurance.
Patrice parle en connaissance de cause, il la porte assez souvent. et se sent bien.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec notre invitée Diane von Furstenberg, la femme que j'ai voulu être chez Flammarion. Et voici, je vous l'ai promis, Stéphane Blakowski.
Les héros et les salauds de Blacko.
Alors, monsieur Blacko.
Eh ben, cette semaine, je voulais vous parler des effets de l'alcool sur la personnalité. En effet, il se trouve que pour repérer mon héros et mon salaud de la semaine, je lis chaque semaine des dizaines de faits divers. Eh ben, si vous rêvez de devenir célèbre, comme Stéphane Bern, si vous rêvez de voir votre nom dans le journal, un bon conseil, prenez une bonne cuite. Parce que une fois que vous avez 3 grammes d'alcool dans chaque bras, c'est quasiment automatique, le lendemain, vous êtes dans le journal, à la page des faits divers. Bon, alors bien sûr, il y a accident de la route, violence conjugale, bagarre de rue qui se finissent à l'hôpital, l'alcool nous pousse à faire n'importe quoi. Il y a ceux qui prennent le périph' à contresens, en faisant des appels de phare aux abrutis qui roulent en face, en disant « mais vous êtes du mauvais côté !» Il y a ceux qui boivent du pec citron en se demandant « tiens, c'est bizarre, ce Ricard qui fait de la mousse ». Et puis, il y a aussi ceux qui sortent le couteau du tiroir de la cuisine, et ça, c'est moins drôle, surtout quand il s'agit d'expliquer à leur femme qu'elle se trompe. Bref, que tout soit bien clair entre nous, ma position sur le sujet est exactement la même que celle de Bourvil. L'eau ferrugineuse, oui. L'alcool, non. D'accord. Alors pourtant, si l'alcool nous pousse parfois à faire des trucs de salauds, ça produit aussi des fois l'effet inverse, c'est-à-dire que sous l'effet de l'alcool, on peut se transformer en héros. C'est ce qui s'est passé cette semaine à Tucson, Arizona. Alors, je vous raconte, un gars complètement bourré rentre chez lui à 3h du mat et il ne trouve plus ses clés. Ça arrive. Heureusement qu'il était ivre. Parce que s'il n'était pas bourré, qu'est-ce qu'il aurait fait ? L'erreur classique.
Il aurait sonné.
Il aurait appelé le serrurier, qui serait déplacé au milieu de la nuit, qui aurait défoncé la porte et qui lui aurait compté 800 balles. Oui. Pour tout ça. Alors, heureusement, grâce à l'alcool, notre héros a trouvé une meilleure solution. Il s'est dit, réfléchissons. Puisque ce gros lard de Père Noël arrive à passer par la cheminée avec sa haute pleine de jouets, pourquoi moi, j'y arriverais pas ? Donc, ni une ni deux, notre héros
bourré, hein.
Est monté sur le toit. Ah ben ça, pour être un héros, il faut pas mettre la dose. Il s'est glissé dans la cheminée et le problème, c'est bien sûr pas qu'il soit resté dans le tuyau, ça on s'en doutait, il était resté coincé. Ouais. Le problème, c'est qu'il est resté coincé à 3h du matin et qu'il est resté 4h dans le noir à appeler au secours avant que ses voisins se réveillent et viennent le délivrer. Alors, vous entendez, ça c'est vraiment un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Vouloir imiter le Père Noël, ouais. Oui, c'est rejoindre ses rêves d'enfant. Ça a quand même plus de classe que d'appeler le serrurier et de se faire arnaquer comme monsieur ouais. Tout le monde. Hein. Mais pour devenir un héros, il y a encore mieux que l'alcool, il y a le LSD. Alors ça, franchement, c'est fort. Prenons l'exemple de Michael Orchard, 43 ans, qui vit près de New York. Au milieu de la nuit, Michael entend le chien de son voisin qui aboie anormalement. Le chien aboie, alors du coup, il passe la tête par la fenêtre et il découvre que la maison de son voisin est en flammes. C'est là que, n'écoutant que son courage, il sort en caleçon, il se précipite au milieu du brasier pour tambouriner à la porte, qui est fermée à clé. Du coup, que faire ? Il monte dans sa BMW, il fonce sur la maison du voisin et il défonce complètement la façade. Alors vous dites, mais pourquoi ? Bah, vous avez peut-être oublié le chien, vous. Mais lui, il n'avait pas oublié le chien. Michael a réussi à attraper le chien, à le tirer des flammes et donc à lui sauver la vie. Alors, si ça, c'est pas un héros, qu'est-ce que c'est ? Bon, alors il y a quand même un petit bémol qu'on pourrait mettre dans cette histoire. C'est un exploit héroïque, certes, sauf que la maison n'était pas du tout en flammes. Les flammes n'étaient que dans la tête de Michael Orchard, sous l'effet du LSD. Donc résultat, notre héros aujourd'hui est en prison parce qu'il a détruit la maison de son voisin et parce qu'il lui a volé son chien. Mais bon, on dira ce qu'on voudra. Moi, je pense que dans ces cas-là, c'est l'intention qui compte. Et de ce point de vue,
c'est vrai.
Michael était quand même prêt à sacrifier sa vie, sa voiture, tout ça pour un chien. Si ça, c'est pas le vrai héros de la semaine, je sais pas ce qu'il vous faut.
Parce que le chien aboyait vraiment.
Oui, ça veut.
J'imagine que ça, au moins, c'était vrai.
Merci beaucoup, Stéphane Blakowski. Ce qui est incroyable, c'est que tous ces faits divers se passent aux États-Unis.
Oui, je pensais aussi.
Oui, c'est incroyable. Je voulais juste vous dire, Diane von Furstenberg, il y a une dépêche qui vient de tomber. Il y a une maman qui a été punie en Suède de 3 ans de prison.
avec sursis parce qu'elle avait enfermé son fils dans le noir. En Suède, les enfants
ne rigolent pas.
Ah non, mais je sais. Je sais.
Il ne faut pas rigoler.
Mais moi, en tout cas, ça m'a fait du bien.
Alors, vous auriez pu être son avocate.
Alors, on ne sait pas combien de temps elle a enfermé non plus.
Alors, en Autriche, les enfants passent leur scolarité
dans le noir. Et en sous-sol.
Très bien. Il y en a, ils ont mis 12 ans à savoir qu'il y avait un étage dans la maison.
On peut loger beaucoup plus de monde. Eh bien, nous allons retrouver Diane van Furstenberg dans un instant pour continuer à parler de son livre « La femme que j'ai voulu être ».
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
Alors, on a plein de... C'est le bureau de vérification des informations. Avec vous, Diane van Furstenberg, il paraît que vous avez une petite pièce d'or que vous avez donnée à votre père et qu'au moment des défilés, vous la glissez dans une de vos chaussures pour que ça vous porte chance.
C'est vrai. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. J'en ai plusieurs, mais c'est des pièces magiques. Et celle qu'il a en ce moment dans sa poche, c'est Hillary Clinton.
Ah oui ?
Ouais. Alors on va voir. On va voir si ça marche.
Ah, c'est vous qui lui avez donné la pièce ?
Je lui ai donné il y a 2 mois.
Oui.
Et je lui ai expliqué à quel point c'était importante. Et apparemment, elle l'a toujours dans sa poche. Et si ça va, eh bien, on viendra tous avec ma famille célébrer
la victoire
dans la Maison Blanche, que la pièce de mon père
lui a porté chance.
Et puis avec les intérêts, en plus.
Attention que Trump ne lui pique pas. Parce que...
En fait, vous avez les chaussures portefeuille aussi.
Vous avez une question, Patrice ?
Oui, alors il y a une anecdote qui est dans votre livre, d'ailleurs, mais que je trouve formidable. C'est votre deuxième mari, quand vous êtes marié, vous a offert 21 alliances.
26
alliances, autant d'années qu'il vous a attendu. Je trouve ça magnifique.
Non. Il a on s'est connus en 75. On était ensemble pendant 5 ans. Je l'ai quitté, mais on est restés très amis. Je l'ai quitté, etc. Et puis finalement, en 2001, on était de nouveau ensemble. Et je ne savais pas quoi lui donner pour son anniversaire. Alors je lui ai dit, on peut se marier si tu veux.
C'était vous le cadeau.
Le jour de ton anniversaire. Alors il a organisé ça. On s'est mariés. C'était 5 jours plus tard, parce que je lui ai dit que 5 jours avant. Et comme cadeau, il m'a donné 26 petites alliances très fines. Et je dis, mais pourquoi 26? Il m'a dit, mais pour les 26 ans qu'il avait attendu.
C'est magnifique.
C'est beau, hein?
Ah oui. C'est cher, mais c'est beau.
Non, mais c'est très bon. Alors, je les donne un peu de temps en temps. Quand j'ai des amis qui ont des problèmes, je leur donne. Parce que comme j'en ai 26...
Ah oui.
Mais j'ai un petit problème.
Est-ce que c'est vrai qu'à la grande époque du Studio 54, une boîte de nuit à New York, vous êtes entré en boîte de nuit à l'intérieur sur un cheval blanc?
Non, pas moi. Ça, c'était bien Kat Jagger.
Et c'était vrai, alors il y avait vraiment...
C'est vrai, c'était d'ailleurs avant qu'il s'ouvre. C'était une soirée, on avait été tous chez Holston. Et après dîner, il nous a dit, allons dans cet endroit qui va ouvrir la semaine prochaine. Et nous sommes allés dans cet endroit. C'était l'anniversaire de Bianca Jagger, qui était à l'époque mariée encore avec Mick. Et il y a un cheval blanc qui est rentré dans la salle. Et elle est montée dessus. Voilà.
On savait s'amuser à l'époque.
C'est sympa les soirées new-yorkaises.
Oui, c'est simple.
Alors, vous collectionnez les lèvres, les yeux et les cœurs. Est-ce que c'est vrai ?
Oh, je collectionne, je ne sais pas, mais j'utilise beaucoup de cœurs. Je signe toujours avec un cœur. La lèvre, c'est devenu comme ça. Oui, un petit peu. Et puis, c'était quoi le troisième ?
Les yeux.
Les yeux ?
Ah ben les yeux, c'est tout.
Oui.
Les yeux, c'est l'âme.
Est-ce qu'il est vrai que vous ne vous séparez jamais, mais jamais, de votre iPad ?
Ah, je l'adore. Je l'adore, c'est mon meilleur ami. Je l'adore. Je fais tout dessus. Alors maintenant, j'ai une app extraordinaire où vous pouvez faire des puzzles avec vos propres photos.
Ah, on peut reconstituer son visage ?
Non. N'importe quelle photo.
Ah oui, vous faites un puzzle.
Et vous pouvez.
Ah, c'est pas mal.
Ah, c'est génial.
Alors maintenant, chaque fois que je fais une photo, je me dis, ça sera un bon puzzle.
Ah ouais. Les Bogdanov ont essayé, ils ont galéré.
Ils ont perdu. C'est vrai que vous êtes la marraine de la Statue de la Liberté.
Oui.
Ah oui.
Oui. Depuis, c'était annoncé il y a une semaine. Et c'est-à-dire que je m'occupe de la beautification, de la,
la remise en,
en beauté de l'île de Lady Liberty. Alors au début,
l'embellissement.
Voilà. Alors on fait un musée, on va faire toutes les lumières extraordinaires, etc. Et puis on fait un documentaire pour HBO. Et voilà. Alors maintenant, et puis finalement, c'était une femme française qui a une histoire extraordinaire. Et voilà.
Vous croyez que ça lui irait bien, là, leur portefeuille à la
Statue de la Liberté ? Mais surtout, en plus, si ma mère m'avait dit, non, que j'étais le flambeau de liberté. Alors,
voilà.
On se rend compte qu'on a des vies assez basiques, quand même, comparé à la vôtre.
Non, cela dit, c'est pas Hillary Clinton qui devait se présenter, c'est vous ?
Ah, non.
Bon, on va savoir.
On va en parler,
si vous pourriez être présidente des États-Unis.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Diane von Furstenberg, qui publie « La femme que j'ai voulu être » chez Flammarion. Vous l'avez écrit en anglais ?
Et oui, je l'ai écrit en anglais. C'est la première. Alors moi, j'ai toujours un problème parce que j'écris mon journal en français.
Oui.
Et puis après, je commence en anglais. Et en fait, ce livre, finalement, je l'ai écrit en anglais. J'étais très étonnée d'arriver à le faire. Je l'ai fait en anglais. Alors après, il a été traduit en allemand, en italien, en chinois, etc. Et puis en français. Et alors, il a été traduit par une traductrice. Mais comme le français, c'est quand même ma langue, alors je l'ai relu et je réécris au-dessus.
Ah, vous avez retraduit la traduction.
Voilà. Ouais.
Alors, comme vous êtes très impliqué dans les élections américaines, eh bien, nous avons un homme qui va nous dire qui va être élu aux États-Unis. C'est simple, il s'appelle Arthur McElhon. Il est gérant du célèbre établissement, le Harris Bar. Et nous l'avons au téléphone. Bonjour, Arthur.
Bonjour Stéphane, bonjour toute l'équipe.
Bonjour, alors vous êtes aussi l'arrière-petit-fils du créateur, c'est
de
ça ?
Harry McElhon, tout à fait.
Exactement, qui a créé cette sorte d'enclave américaine au cœur de Paris et qui a rouvert ses portes il y a 105 ans, c'était en 1911, c'est pas rien quand même.
Ouais.
Et alors si nous voulions vous parler aujourd'hui, jour du dernier débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump, c'est que se déroule dans votre établissement depuis le 5 octobre dernier un vote pour la présidentielle américaine. C'est-à-dire, qui participe ? C'est comme les primaires chez vous ? Comment ça se passe ?
C'est même depuis 1924, hein, pour être tout à fait exact, qu'on organise ça, et depuis le 5 octobre également, pour ce qui concerne ces élections. Alors oui, c'est ce qu'on appelle le straw vote, le vote de paille, littéralement, du Harris, hein, qui est né d'une chose, qui est le cocktail. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années folles, hein, ce qu'on appelait les années folles, dans l'entre-deux-guerres, le cocktail n'était pas encore très, très démocratisé en Europe.
Oui.
Et on a été le premier bar à cocktail d'Europe, hein, avec Harry McElhon qui était aux manettes à l'époque. Et c'est du coup au Saint-Crudonou, hein, dans le quartier de l'Opéra, que se canalisaient tous les Américains de Paris, qui étaient soit de passage, soit comme Scott Fitzgerald ou George Gershwin, très longtemps à Paris, celui qui a écrit Gatsville magnifique, celui qui a écrit Un Américain à Paris. Tout cet aspect années folles était très, très présent chez nous. Et ce qui a accéléré, si vous voulez, l'aspect politique, l'aspect électoral, même si c'est dans la festivité qu'on fait tout ça, ça reste politique, c'est que l'absentee n'existait pas. Qu'est-ce que c'est l'absentee ? C'est la procuration. C'est pour les expatriés.
Ah, voilà, on ne pouvait pas voter par procuration.
Ben non, on ne pouvait pas. Mmh. Et l'ambassade, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone aussi rapide qu'aujourd'hui. Et on ne pouvait pas voter en ambassade. Donc les Américains de Paris, qui aimaient la Dolce Vita européenne, étaient très frustrés.
Oui, et donc ils votaient chez vous, mais ils ne votaient pas aux États-Unis. Et ben, leur vote... Il paraît que c'est l'ambassadeur, madame l'ambassadeur des États-Unis à Paris, qui est la première à être venue voter là.
Oui, le fait que je l'ai accueilli, c'était très impressionnant de voir toutes ces voitures. On se serait cru dans House of Cards. ils sont descendus, elle est venue glisser son bulletin dans l'urne. Donc c'était un honneur qu'elle nous a fait de venir. Et puis ça a sonné le début des activités électorales au Harris Bar.
Au Harris Bar. Alors ce qui se trouve, c'est que normalement, il paraît que chaque fois, quand vous faites le dépouillement des votes, votre vote correspond à celui des Américains.
Alors, c'est très gentil de votre part, Stéphane. On a eu faux deux fois. Alors, est-ce que c'est nous ou est-ce que l'Amérique a eu faux ? Je ne sais pas. Mais on a eu faux en 76 avec Carter. Voilà. Et en 2004 avec Bush contre Kerry. Alors, est-ce que c'était vraiment faux ? Oui et non, parce que l'Amérique a été très... Il y a eu beaucoup
vous avez mieux compté les votes qu'aux États-Unis.
Ouais. Ouais. Et là, alors, qui, d'après le dépouillement, qui va gagner, à votre avis?
Là, aujourd'hui, alors, on a une nouveauté cette année, c'est qu'on dépouille toutes les fins de semaine.
Ah oui, vous n'attendez pas le 8 novembre?
Non, on dépouille toutes les fins de semaine, mais c'est le 8 novembre qu'on aura bien sûr le résultat.
Nous aussi, on aura le résultat.
Et pour l'instant? Pour l'instant, c'est Hillary.
Ouais.
Et Hervé Mariton, il a combien de mois?
Non.
Et alors, dites-moi, parce qu'une dernière question, Arthur Macellon, c'est que vous avez lancé deux cocktails pour cette occasion, le Hillary You, c'est ça?
Le Hillary You, le hilarant. Donc
le hilarant et le trumpet.
Et le trumpet, ouais.
Voilà.
Ah, et c'est quoi?
Alors, le
trumpet est très piquant. Il y a du sirop de piment, du sirop de basilic, du rhum et du bitter.
Ouais, je ne suis pas sûr que les femmes en raffolent.
On dit plein de conneries comme lui après.
Il est hilarious.
Et le hilarious, il est plus, un petit peu plus doux. Alors, c'est du whisky, du vermouth et de la fuse.
Très bien. Bon, en tout cas, on était ravis de bavarder avec vous, Arthur Macellon. Du Harris Bar de Paris, rue Donou. Merci, évidemment, si vous prenez un cocktail, c'est à boire avec modération et puis avec qui vous voulez.
Avec Hillary.
Gisa pour le CSA qui nous écoute. Évidemment, on les embrasse puisqu'ils ont que ça à faire.
C'est un peu tôt pour eux encore.
Et on va retrouver dans un instant Eric Dussard et la télé.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Eric, on commence avec une session de rattrapage.
Eh oui Stéphane, en antenne, vous m'avez demandé ce qui s'était passé dans les Marseillais de W9 parce que vous n'avez pas eu le temps de regarder exceptionnellement votre émission favorite.
Ne me mouillez pas avec vos Marseillais.
Bah, sachez que les candidats ont dû se prêter à une épreuve de dressage canin. Alors attention, c'est pas eux qui étaient au bout de la laisse, hein, il s'agissait de vrais chiens. Mais alors de quelle race? Ça honnêtement, n'en savent rien.
Ah ben il fallait faire le parcours aux chiens, ils sont gênés, il a pas écouté, le miel était au top.
Arrête.
Après, c'est pas comme j'ai. Ben des poils. Comme ça. Je connais pas les marques.
Non, elle connaît pas les marques des chiens. Elle sait pas si c'était un produit de la marque Caniche ou de la marque Cocker. Elle a pas regardé l'étiquette, en fait, vous voyez. Elle sait juste qu'il avait des poils et quatre pattes, ce chien.
La marque des chiens,
c'est dramatique. Bon, on va parler maintenant d'un jeu où l'on ne risque pas de retrouver les candidats des Marseillais, puisque le principe, c'est d'essayer d'orthographier correctement des mots. Il s'agit de Motus sur France 2, un jeu que vous pourriez avoir aux États-Unis. Hein. C'est une grosse production. C'est un jeu animé par Thierry Beccaro, un animateur qui fête aujourd'hui ses 60 ans, ouais, dont 26 passer à recevoir sur son plateau des candidats tous plus exaltés les uns que les autres.
Venez-vous, Françoise?
De Saint-Lenoble, 5 km de Douai.
Bon, exactement. Qu'est-ce que vous faites, vous, Françoise?
Rien du tout.
D'où venez-vous, Jenny?
Bruxelles.
De voilà. Bruxelles. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jenny?
Rien.
Et vous, Christophe, qu'est-ce
Moi,
que vous faites?
Moi, je suis assistant de vie.
Ah, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, vous occupez de personnes en fin de vie, des personnes âgées?
Une personne âgée, qui n'est pas en fin de vie du tout, apparemment.
C'est bien, c'est le apparemment. Il n'a pas l'air sûr quand même. Tu sais, ça bouge encore, mais je ne suis pas certain.
Je ne suis sûr de rien, pour entendre ça.
En fin de vie. Donc, vous l'aurez compris, le profil type du candidat de Motus, ce jeu, c'est un joyeux bout en train. C'est le genre de gars que tu invites à tes soirées pour être sûr qu'il y ait une grosse ambiance. Surtout celui que vous allez entendre, qui était une vraie pile électrique. On a rarement vu des candidats aussi dynamiques que lui dans Motus. C'est-à-dire qu'il éplait les mots à peu près aussi vite que Louis la Brocante en vitesse 33 tours.
Sursitaire. S-U-R-S-I-T-A-I-R-E. Savoureuse. S-A-V-O-U-R-E-U-S-E.
Oui, Karl, il faudrait pour la prochaine fois que vous épeliez un petit peu plus rapidement.
Mais c'était la dernière. Donc on va en profiter pour saluer quelques amis. Richard?
Non.
Non. Non, il a plus d'amis, Richard. Il a saoulé tout le monde avec Motus. Du coup, plus personne ne lui parle.
Il dort.
Non, mais il a de la patience, Thierry Beccaro. Et puis, il a de la mémoire aussi. Hein. 26 ans d'émission. Et pourtant, ce qui est fou, c'est qu'il se souvient parfaitement bien de tous les candidats qui sont passés sur son plateau.
Alors, Jacqueline, c'est la première fois qu'on se rencontre, Jacqueline?
Non, sera la troisième.
Ah, quand même. Et oui, la mémoire.
Ouais. Même quand on présente Motus, on peut perdre la boule. Hein. Qu'est-ce que je vous dis?
On dit souvent que le monde de la mode est cruel, Eric.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que Bernadette Chirac aurait été parfaite dans ce milieu. Oui. Parce qu'elle, c'est un peu donc la Anna Wintour de la politique. Dès qu'elle apparaît quelque part, tout le monde se planque. C'est une terreur. On a encore pu le constater dans ce documentaire de France 2 qui lui a été consacré avec cette séquence absolument savoureuse. On y voit Bernadette Chirac Furax dans les coulisses d'une émission de France 3 parce que son ami Monseigneur Di Falco n'a pas de loge attitrée.
En coulisses, elle se transforme en productrice quelque peu exigeante.
Moi je voudrais qu'on donne une loge.
Non, non, mais on a ce qu'il faut, vous inquiétez
mais où
pas.
Vous êtes
pour...
où
bon, on est parqué par là-bas.
Non, non, non. Je veux qu'il soit dans une loge. Où est celui qui donne des loges? Non. Sinon, j'attrape cette barre et je la jette. Ouais. Bon, alors écoutez, vous allez être gentil.
D'accord.
Parce que sinon, je vais foutre le camp et ça mettra votre émission par terre.
Je vais aller voir ça.
Moi, je crie jusqu'à ce que ça vienne.
Vous criez?
Ah oui, parce que si on ne crie pas, ça ne vient pas.
Soit dit, elle n'a pas tort, c'est vrai. Mmh. Si on ne hurle pas, on n'obtient rien à la télé. Mmh. Finalement, c'est assez juste. Ou alors, et alors, je jette cette barre, c'était le micro-perche. Hein. Elle n'était pas en train de faire les JO, je vous rassure. Hein. Il s'agissait juste de la perche du micro. Alors, pour être sûr de ne pas avoir ce petit problème de loge, on peut faire comme certains acteurs, sinon, tout écrire sur le contrat. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Hein. Vous allez voir, le magazine Stupéfiant sur France 2 s'est procuré un contrat d'acteur. Un acteur français qui a visiblement plutôt du succès, vu ses exigences et ses émoluments.
D'abord, on y trouve le salaire de l'artiste. 550 000 euros bruts de cachet, plus 450 000 euros de droits à l'image, sans compter l'intéressement. 10 centimes d'euros par ticket acheté si le film dépasse 1 million d'entrées. En plus du cachet, il y a les avantages en nature pendant le tournage. Une voiture avec chauffeur, des voyages en classe affaires, une suite dans un palace parisien.
Et je voulais vous montrer une clause de ce contrat que j'affectionne tout particulièrement. De façon générale, aucun membre de l'équipe technique ou artistique ne sera mieux traité que l'artiste avec un grand A.
Il dit, je veux que personne soit traité mieux que moi.
Exactement, c'est écrit noir sur blanc.
Simplicité.
Mais oui, Stéphane, vous n'êtes pas le seul à avoir cette clause sur votre contrat. Bah, ils n'ont jamais donné le nom, évidemment.
Ah bon non, ils n'ont pas donné le nom.
Non, mais je me demande si c'était pas le vôtre de contrat.
Ah non, non.
Bah, regardez, mais...
Ah, j'aimerais bien le payer comme ça, oui.
Oui, dans le nom.
Je suis pas acteur, ça serait.
Mais comment on sait qu'on est mieux traité ou moins bien traité?
Bah, ça veut dire que les contrats des autres stipulent qu'ils sont moins bien traités.
Et on termine en revenant à notre sujet du jour.
Oui, la mode avec l'une des plus belles robes vues à la télé ces dernières années, c'était lors du mariage de Kate et William. Mais alors, contre toute attente, ce n'était pas la robe de la mariée qui avait fait sensation. C'était cette robe dont nous avait parlé Claire Chazal, qui présentait à l'époque les infos. Un jour où elle avait encore oublié sa ponctuation. Du coup, elle nous avait travelloté Elton John.
Une très belle cérémonie d'ailleurs à laquelle assistaient près de 2000 invités, dont une quarantaine de têtes couronnées et de célébrités. On a aperçu Elton John, vêtu d'une ravissante robe ivoire, haussée de dentelle et d'un léger voile.
Elle était mignonne, la Elton, là-dedans. C'était pas vous qui l'aviez signé, cette robe d'Elton John?
Ça aurait pu être le cas, en plus.
Allez, on va retrouver dans un instant notre invitée Diane von Furstenberg, la papesse de la mode aux États-Unis, DVF, ces trois lettres qui succès, 55 boutiques dans le monde entier. On va retrouver également Régis Maillot, marque du maillot, dans un court instant. Mais pour l'heure, RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, la marque du maillot.
Alors Régis, c'est votre tour de montrer la marque du maillot.
Les politiques, ça ose tout, hein. C'est à ça qu'on les reconnaît. Prenons aujourd'hui, par exemple, et par hasard, le cas de François Hollande. Chère Diane, vous connaissez François Hollande, hein?
Oui.
C'est un type comme ça. Je mets les pouces en l'air, ça fait 4 ans qu'il joue avec. Le type est sympa, très loquace, toujours un bon mot à table. Dès qu'il dîne avec un journaliste, il raconte sa vie. On dirait une attachée de presse, enfin, ou ma sœur au téléphone, passons. Je disais, les politiques, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. En termes d'audace, François Hollande, c'est un cas d'école, voire d'étude. Le X-File de la politique, un phénomène qui, dans des décennies, sera encore étudié dans les écoles de management, dans la catégorie « surtout ne pas faire la même chose ». Comme François Hollande, c'est pas du genre à apprendre de ses échecs, autant que cela profite aux générations futures. Chaque semaine, Hollande nous réserve une surprise. Lundi, notre président s'est rendu à Florange, certainement pour vérifier que tout était dans le même état que la dernière fois qu'il est venu, c'est-à-dire fermé à double tour, radiateur coupé, four éteint, rideau baissé. Hollande à Florange, c'est surréaliste. C'est un peu comme si le service après-vente de chez Darty se pointait chez toi 2 ans après pour te dire « Alors ?» Ça fonctionne toujours pas ? Faut oser. Alors quand les gars du coin l'ont vu débarquer en toute discrétion, un convoi de voitures noires, ils étaient pas rassurés. Ils se sont dit, tiens, un corbillard qui vient faire une visite de reconnaissance. Ils se sont vite ravisés, c'est vrai, on n'enterre pas un cadavre une deuxième fois. Diane, vous connaissez Florange ? C'est à côté de Luxembourg. C'est une sympathique cité minière située dans l'est de la France, connue pour ses sorties d'usine, sorties définitives. C'est comme en boîte. Je peux rentrer, j'ai une bouteille à l'intérieur. Non, non, rentre chez toi, tu picoleras à la maison. Mmh. Ils ont pas de bol là-bas. Déjà que ça caille, ils ont décidé de fermer les hauts fourneaux. C'est pas fair play. Quand je pense que les gars ont passé leur vie à fabriquer des cylindres en acier pour au final se faire eux-mêmes entuber, moche. Mmh. Oh. En même temps, c'est le cours de l'histoire. La Lorraine, bastion minier, région aujourd'hui industriellement sinistrée. Aujourd'hui, dans l'Est, vous savez, une usine, au mieux, on appelle ça une friche industrielle, au pire, un musée d'art contemporain. La sidérurgie se meurt. À quoi sert de forer le sol si c'est pour y creuser sa tombe? Ça, c'est la partie intello de la chronique.
C'est très social. Là, c'est bien.
Ah. Ouais, faut c'est le savoir. Engagé, c'est bien, là. Courrier des lecteurs de Télérama.
Ouais, c'est bien.
Faut le savoir, dans l'Est de la France, comme dans le Nord, les seuls mineurs qui font la une des journaux, ce sont ceux abusés par les pédophiles. Oh. Là, je reviens dans mon ton.
Tonton.
Je l'embrasse. Florange est un peu l'appartement témoin de notre pays. C'est du coup, depuis 10 ans, régulièrement, les candidats à la présidentielle s'y succèdent pour faire campagne. Dans une année, un ouvrier à Florange y croise plus d'hommes politiques que de DRH. Alors revenons à l'objectif de cette visite. François Hollande a déclaré, hein, deux points, j'ouvre les guillemets, je ferme les yeux, je viens à Florange dire que j'ai respecté l'ensemble de mes engagements, il n'y a eu aucune perte d'emploi. C'est vrai, il y a juste plus de boulot. Ça, c'est une constante chez les socialistes, on confond emploi et travail. D'ailleurs, la population locale n'y s'est pas trompée. Et pour le remercier, notre président aux élections locales, ils ont largement voté à droite. Comme quoi, il n'y a pas de mystère. Bref, la seule promesse électorale que François Hollande aura tenue, c'est de revenir sur le lieu où il n'a pas tenu sa promesse électorale. C'est génial. Si notre président s'est mis en tête d'effectuer le Tour de France de ses échecs, autant lui prolonger son CDD de 5 ans, parce que c'est pas gagné. En tout cas, j'imagine certainement la teneur de la conversation que Hollande a eue avec les ouvriers de Florange. Ça va? Ça se passe bien le chômage? Et la reprise, ça va mieux? Le Luxembourg, toujours pas trop loin? Moi, j'ai une proposition à vous faire, les gars, pour sauver le site. On rallume les fours et on fait des quiches pour alimenter les wagons-bars des TGV d'Alstom. Si c'est possible, demandez à Sarko. Les politiques, ça hausse tout. C'est à ça qu'on les reconnaît.
Régis Maillot, qu'on peut retrouver sur RTL.fr. Allez, on va retrouver maintenant, dans un instant, notre invité. Et puis, toute la joyeuse équipe. On va gagner aussi, je vous l'ai dit, un week-end romantique au château de Montvillargennes. Ah, ça c'est dans le parc, c'est tout à côté
tout
de Chantilly.
Tout près de
Chantilly,
oui.
Oui, mais bon, on va changer, il
c'est
faut
le château
gagner.
De Rothschild.
Exactement.
C'est un bel enchaînement après Florange.
Mais d'abord, écoutez, voilà, on fait des cadeaux.
Non,
cadeaux,
il en faut pas faire des coups.
Est-ce que vous voulez un week-end à Florange? Non. Moi, j'y étais le week-end dernier.
Oui, je sais.
J'y étais le week-end dernier.
J'ai encore posé une plaque, Stéphane Bern.
Non, j'ai tenu ma parole, et oui, pour les 10 ans de la Maison du Luxembourg.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Toujours avec Diane von Furstenberg pour son livre « La femme que j'ai voulu être ». Alors, il y a quand même, c'est assez étonnant, à part Coco Chanel, Jeanne Lanvin et quelques autres, il y a très peu de femmes, pourtant
vous êtes les font la mode, oui.
Très peu de femmes font la mode alors que vous êtes les premières concernées.
Oui, alors je me rappelle un jour que Christian Lacroix me disait « En fait, la différence, c'est que les hommes ont fait des costumes et les femmes, elles font des vêtements. » Et il y a quand même eu des femmes formidables. Hein. Mmh.
Mais vous n'êtes pas si nombreuses.
Sonia Riquel, oui, Donna Karen, il y en a eu. Hein.
C'est vrai que Saint-Laurent avait remis le pantalon à la mode pour la femme, et vous avez remis la robe.
Saint-Laurent, il aimait les femmes.
Oui, il aimait les femmes. Mais, non,
mais c'est vrai.
Il les a habillés en homme, et vous les avez remis la robe au goût du jour, parce qu'il y avait plus de pantalons au moment où vous avez
c'est
sorti
vrai.
La robe.
C'est vrai, en effet, c'était pas cette petite robe de rien du tout. Personne n'y croyait vraiment. Mmh. Sauf Diana Vreeland, qui a trouvé ça génial.
C'était la papesse de la mode avant Anna Wintour.
Diana voilà, Vreeland. Et elle avait raison.
Alors, il y a une phrase de Lao Tzu, parce que.
C'est toujours Lao Tzu.
C'est votre maître. Votre livre,
un peu votre maître.
Il dit : faites votre travail, puis faites un pas en arrière. C'est le seul chemin vers la sérénité.
Mais c'est vrai, d'ailleurs, là maintenant, je fais du tai chi. Et j'ai un maître de tai chi que j'aime beaucoup. Et l'autre jour, il m'a donné un mot, un peu comme ça, qui est un mot clé. L'intention. Alors il m'a dit, si vous donnez du pouvoir... Non, Ah oh, merde.
C'était la première leçon. Hein.
Toute une vie à l'heure sur ce vocabulaire français.
Non, si vous utilisez seulement votre pouvoir, vous perdez, vous ratez.
Oui.
Si vous utilisez uniquement votre énergie, vous stagnez. Mmh. Mais si vous concentrez beaucoup et avec beaucoup de précision à l'intention, vous aurez l'énergie et le pouvoir.
Ah,
c'est réfléchir, mais c'est un très beau cadeau. Alors, réfléchissez tous, parce qu'en fait, ça peut s'appliquer sur n'importe quoi. Il faut réfléchir beaucoup. D'ailleurs, ça revient au.
C'est au pourquoi on fait les choses, au fond.
Voilà, ça revient au titre du livre. Il faut réfléchir à ce qu'on veut être.
Oui, je voulais vous faire un cadeau. C'était mon intention. Je l'ai pas peine, c'est l'intention.
C'est l'intention qui compte.
Mais cela dit, c'est vrai que les femmes vous sont reconnaissantes. Je vois bien parce que cette robe portefeuille, elle est très féminine.
Les femmes et les hommes.
Oui, les hommes.
Lui, il a l'air de savoir de quoi il parle.
Oui, mais parce que. Alors, et puis d'abord, c'est très facile à enlever.
Oh, il n'y a pas besoin.
Oui.
Il n'y a pas besoin d'enlever. Elles sont toutes seules.
Oui, c'est vrai.
Demandez à la mère d'Anna Tewell.
C'est vrai que c'est très pratique.
Absolument. Non, mais
Patrice, vous avez déjà souvent mis la main au portefeuille.
Et en plus, elle ne se chiffonne pas.
Ah, ça, oui. Contrairement aux femmes.
Oh, la classe.
Vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est ce qu'on disait.
Ça me rappelle Guy Bedos qui disait « Paula, tu as les bas qui plissent. »
J'ai pas de bas. Allez, on va retrouver, puisqu'il s'y connaît bien, on va retrouver Patrice Carmouze et son test à l'aveugle.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Allez, tout est en chanson. J'ai oublié de vous dire que Régis Maillot est toujours en tournée. Il est le 29 novembre.
Non, il est là.
À l'Alhambra. Non, mais il est là. Il est à Paris, à l'Alhambra, oui. Le 29 novembre.
Pour une représentation exceptionnelle.
Avec Aix-les-Bains et Châteauneuf-sur-Lizé. Alors, c'est le moment de faire notre test à l'aveugle avec des chansons sur les femmes.
Sur les femmes, voilà. Enfin, célèbres les femmes. Alors, vous jouez avec Diane pour Mathieu.
Oui. On joue surtout pour un week-end au château de Montvillard.
Voilà. Et le reste du monde joue pour Rebecca. Alors, qui va gagner, voilà, ce week-end.
Bravo, Rebecca.
Soit Mathieu, soit Rebecca. Alors, on va faire. Alors, il faut deviner qui chante, tout simplement.
D'accord.
Donc, vous jouez avec Stéphane. On va faire vous et Stéphane contre Stéphane Blakowski pour le premier.
Allez-y, je suis prêt, j'ai les mains sur le buzzer.
C'est parti. Julien Clerc.
J'en étais à prendre ma respiration.
Ouais.
Pour dire Julien Clerc.
Mais... taquet là aujourd'hui. 200. Deuxième duel, c'est avec contre Régis.
Paul McCartney.
Non.
Je sais que vous avez dit des mots qu'on ne comprenait pas.
Non, c'est pas McCartney.
Non, c'est pas McCartney.
Elton John.
Lennon.
Lennon, John Lennon.
Oui, c'est moi, donc. Oui.
Donc, c'est Régis. Mmh.
Lennon.
Attention, alors là, j'ai peur d'Eric qui doit être très, très bon là-dessus, mais enfin, on ne sait jamais.
Beyoncé.
Beyoncé.
Beyoncé. Ah, on ne sait même pas qui c'est.
Beyoncé.
Comment ça, on ne sait pas qui est Beyoncé.
Random World.
Que c'est bien son mari. GZ, vous l'aviez appelé, d'ailleurs.
Ah oui.
GZ.
C'est
Jazzy.
Non, mais GZ, ça va. Ça fait du sens.
Ouais, c'est pas mal, ouais, GZ. Ouais.
Alors, l'équipe SB contre Blacko, ça, c'est plus facile, allez.
Mais Sardou. Alors, bien sûr, on ne connaît pas, mais Sardou.
Ah, bah ouais, dis donc. Ouais.
Égalité.
Égalité.
J'aurais bien aimé trouver Sardou. Ouais. Ça, je suis un peu blessé.
Ça, là, c'est facile aussi. Et Christophe. Aline, pour qu'elle revienne.
En fait,
lâchez ce micro.
Mais Stéphane joue tout seul aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais dès que c'est ma génération.
Moi, je dis pour la prochaine Patrick Juvet.
Ah bah oui.
Mais t'es
pas non. Eh ben non. Je crois que je l'ai pas mis. Mais alors celle-là, oui, je l'avais mise déjà hier. Donc est-ce qu'on la compte ou pas? Mettre ça. La prochaine, on la compte.
Qui joue?
Ah bah c'est comme hier, c'est Régis contre Stéphane. Cookly Wingler.
Allez.
Je vais pas me faire avoir là.
Un chacun.
Bien, ouais.
Le Cookie Dingler, il va pas comprendre, ses droits d'auteur s'envolent là, depuis deux jours.
Alors là, on va faire
j'ai appelé Cookie.
Un peu plus difficile, mais peut-être que c'est Diane qui va gagner. C'est contre Eric.
Arrête à Franklin.
Oui.
Ouais, ouais.
Égalité 4 partout.
Tout ce que je te demande, dit cette chanson, c'est un peu de respect quand tu rentres à la maison. Non, respect.
J'ai cru qu'il me parlait, j'étais pas bien.
Mais je te parlais aussi.
Si il se passe un truc.
C'était un message privé.
Faites attention parce que là vous pouvez remporter points Stéphane et Diane, mais c'est contre. C'est toujours contre Blanco. Ouais.
C'est l'heure de points, allez-y.
C'est qui alors?
J'aime les hommes qui sont ce qui peuvent.
Facile.
Souchon.
Oh, oui,
Souchon.
Ah ouais, j'ai un gros blocage, là, je reconnais. Désolé. C'était mes condoléances à la famille d'Alain Souchon.
La beauté d'Avagarna.
Magnifique chanson d'Alain.
Magnifique
Souchon.
Chanson.
Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, Régis, contre l'équipe SB.
Si tu cherches la bagarre.
Oh, Amanda Gir.
Ah oui, c'est Amanda.
Qui a annoncé qu'elle se retirait.
Enfin, oui, elle se retirait.
De qui?
Après 40 ans.
Elle sortir de quoi? Elle arrêterait sa carrière.
Non, mais elle dit ça.
Elle est divine.
Elle va continuer.
Et pourquoi elle avait été chanteuse?
Non, mais elle continue le théâtre, vous savez.
Bon, elle va continuer.
Elle veut poursuivre la tournée. Bah, elle veut se faire désirer, c'est tout.
Elle est extraordinaire.
Elle est la femme qu'elle voulait être.
Oui, ah oui. Bah oui. On peut dire ça comme ça.
Ne coupez pas. Ça fait combien, Maître Sam?
Ça fait 6 à 4 pour l'équipe de Stéphane.
6 à 4, alors on a ça, Régis, c'est pour vous.
C'était si drôle, t'en souviens-tu?
Non.
Avant, oui. Il colle toujours.
Valérie Le Mercier. Oui.
Valérie
Le Mercier.
Goûte mes frites,
c'est ça?
Goûte mes frites de Valérie Le Mercier. On l'avait passé ici. Donc c'est
pour
une dernière, allez, pour la route alors.
Ariel Dombal, coucou. Ah oui, Ariel Dombal, qu'on embrasserait fort.
Oh, ouais. Alors là, je ne sais pas si c'est une chanson qui concernait les femmes, mais
on a jamais
le plaisir de la mettre.
Ariel Dombal concerne toutes les femmes.
Absolument. Eh ben, bravo, victoire pour Diane et Stéphane. Et c'est donc Mathieu.
C'est Mathieu qui part au château de Montvillargennes. Voilà, ça se passe dans la forêt de Chantilly. C'est, vous allez voir, pour un week-end romantique à deux, c'est idéal. Il y a piscine, sauna, mam, fitness. Allez voir le château de Chantilly, les collections de peinture, oui. Les grandes écuries du Grand Condé. Enfin,
ah oui, les grandes écuries.
Les dentelles.
Oui,
tout est magnifique. Il y a toujours les dentelles.
Oui, bah on fera dans la dentelle. Pourquoi pas.
Il y a tout à Chantilly.
Je suis sûr qu'on les fabrique encore. Bref.
Et la crème.
En tout cas, c'était une joie de vous accueillir. Diane von Furstenberg, la femme que j'ai voulu être. C'est publié chez Flammarion. Un beau récit de vie. Et puis en même temps, c'était un viatique pour toutes les femmes qui cherchent le chemin. Et puis j'avais un coup de cœur aussi. C'est aujourd'hui sort le dernier livre de Jean-Pierre Coff, Coup de cœur et coup de fourchette, ben oui. Préfacé par notre ami Laurent Ruquier. C'est aux éditions Larousse. Et voilà, j'ai une pensée émue pour Jean-Pierre Coff. Donc voilà, je voulais vous parler de ce livre. Parce qu'il me tient à cœur. Voilà. Demain, nous serons en compagnie de Sheila. Eh oui, Sheila qui revient. Sheila, la chanteuse, oui.
Oh.
Oui, oui.
Les jours se suivent, elle
se ressemble pas. Une grand-maman.
On le dira.
Vous pouvez revenir demain.
Ne coupez rien.
Mais pour l'instant, l'école est finie.
Allez, l'école est finie. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.